De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour et bienvenue. Alors oui, évidemment, tout le monde parle de Grâce à Dieu, le dernier François Ozon. Mais ce n'est pas de ce film dont nous allons parler parce que nous ne l'avons pas encore vu, mais nous avons vu eh bien, d'autres films qui sont en salle depuis le 20 février, n'est-ce pas Marine?
Oui, tout à fait. Alors moi, je vais vous parler du Chant du Loup, c'est mon coup de cœur de la semaine. Et je vais également vous parler de Euphoria qui, lui par contre, ne m'a pas laissé euphorique. Hein.
Et toi Manu?
Alors moi, je vais vous parler d'un documentaire qui se passe dans un IME, dans la terrible jungle, et puis une suite en fait, Happy Birthday 2, un slasher assez particulier.
Et puis moi, eh bien, je vous parlerai aussi d'un documentaire, Rencontrer mon père, d'Alassane Diago. Et puis, on aura l'occasion aussi de jouer un blind test sonore, ils reviennent. Et ce sera eh bien, sur le thème des Césars, puisque la cérémonie approche. C'est Cinérama qui débute avec eh bien, le Chant du Loup. On retrouve François Civil, Omar Sy, Reda Kateb à la poursuite du loup dans les profondeurs de l'océan.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Il est là.
Nous sommes à bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, un SNLE pour les intimes, fleuron de l'armée française, à bord duquel travaille le soldat Chanterenne, jeune homme qui a le don particulier de savoir reconnaître les sons. Une qualité importante dans un sous-marin qui reste jusqu'à 2 mois sous l'eau sans remonter à la surface et qui donc navigue à l'aveugle. Jusqu'au jour où un bruit suspect fait son apparition, un bruit que Chanterenne ne parvient pas à décrypter et qui va finir par l'obséder, un bruit qui pourrait signifier une grande menace.
Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Du 4 temps.
Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales.
Je sais.
Le rendez-vous avec les nageurs, là, c'est oui ou c'est non?
Le Chant du Loup. Elle nous a détecté, second.
Poste de combat, tu diffuses. On doit récupérer les nageurs, c'est la mission.
3 splashes au sonar.
J'ai toujours le Chant du Loup en audio.
N'y pense plus.
Je trouverai ce que c'est.
Une attaque majeure est en cours sur le sol français.
Le président de la République me commande d'effectuer une frappe en riposte.
Nous avons été pris au piège.
C'est nos frères en face, là.
C'est pas nos frères, ce sont des marins, ce sort de tir.
On n'a plus de choix.
En fait, c'est un peu comme Vincent quand il traque les bruits parasites dans les interviews pour Cinérama. Antonin Baudry, donc c'est le premier film, a eu un changement de carrière peu commun. Il était diplomate, puis il est devenu scénariste pour la BD Le Quai d'Orsay et pour le film éponyme, avant de se retrouver finalement aux commandes du Chant du Loup, film qui est pour moi, je le dis carrément, le renouveau du film d'action français. Le Chant du Loup est un huis clos extrêmement bien documenté sur l'armée française, et qui n'a à rougir ni de ses scènes d'action ni son sens du rythme, malgré la flopée de films de sous-marins qui l'ont précédé, tels que 871 ou La Poursuite d'Octobre Rouge, pour ne citer que ceux-là qui sont les plus connus. La narration est très intelligente. En général, dans les films, lorsque l'on veut vous faire découvrir un univers professionnel, social, on le fait à travers un nouveau venu. Vous voyez, à travers les yeux d'un personnage qui va découvrir ce nouveau monde et qui vous emmène avec lui. C'est un procédé narratif qui permet d'expliquer pas mal de choses. Par exemple, dans Avatar, vous savez, un soldat arrive sur une planète déjà colonisée depuis longtemps mais que lui ne connaît pas. Dans Le Chant du Loup, la bonne idée, c'est au contraire d'être déjà au cœur de l'action sans user de scènes d'exposition inutiles. Le film ne prend pas les gens pour des demeurés, on n'entre absolument pas dans une vulgarisation du monde de l'armée et des sous-marins. Alors il y a pas mal de termes techniques que l'on ne comprend pas de prime abord mais que l'on saisit ensuite. Côté distribution, et bien dans le film, alors on nous a concocté une belle armée Black Bomber, hein, comme on disait en 98. Ça, c'est peut-être le seul aspect du film qui relève un peu du fantasme, puisqu'il suffit de se renseigner pour savoir que malheureusement, au niveau des hauts gradés, notamment l'armée française reste quand même très blanche et très raciste. Hein, mais bon, on va pas chipoter là-dessus. Le casting est assez impressionnant et plutôt intéressant, car on a pris des comédiens issus du théâtre, issus de séries, issus du cinéma d'auteur, des grosses têtes d'affiches comme Omar Sy, des revenants comme Mathieu Kassovitz, et on a mélangé tout ça. Ça marche plutôt bien. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de personnages et que la plupart n'ont pas vraiment le temps d'exister. Hein. Le film a un rythme très soutenu, ça reste un film d'action, pas très bavard. Et c'est cela qui compte, le suspense est présent de la première à la dernière image. François Civil, qui interprète l'oreille, est une vraie révélation. En même temps, ça faisait quand même plusieurs années qu'on attendait que le meilleur pote de Pierre Niney explose afin qu'on ne l'appelle plus justement le meilleur pote de Pierre Niney. D'ailleurs, petit détail étrange, dans Le Chant du Loup, François Civil vit une histoire d'amour avec Paula Beer, la comédienne dont tombe amoureux Pierre Niney dans France. Je ne sais pas si vous saisissez là, c'est plutôt marrant. Et alors, justement, c'est le seul défaut du film, hein, cette histoire d'amour. Alors, je comprends que le réalisateur ait voulu ajouter un personnage de femme, il ne savait pas trop comment faire. Du coup, il a été à la facilité. Ça donne un personnage féminin totalement insipide, prétexte à une scène de sexe bien ridicule d'ailleurs. À part cela, je conclurai en disant que le film est extrêmement réussi, vraiment à part ce petit détail. En plus, moi, j'ai beaucoup aimé passer 2 heures avec 20 mecs dans un sous-marin qui ont tous écrit en gros « Marine » dans leur dos. Mmh. J'ai trouvé ça plutôt rigolo. Non, le Chant du Loup, vraiment, c'est à voir. J'insiste, c'est très rare d'avoir un film français aussi ambitieux et aussi réussi, qui est à la fois un film d'action et qui est en même temps un léger côté autorisant, qui n'est pas totalement bourrin.
Et puis là, on l'a peut-être entendu avec la bande-annonce, mais le son est prédominant et devient quasiment un personnage. Hein. C'est ce qu'a voulu le réalisateur,
totalement,
en tout cas. Et concernant juste cette fille, elle est dans le sous-marin ou pas?
Parce que c'est... Non, pas du tout. Parce que...
C'était ça l'idée, finalement.
Non, il y a encore très, très peu de femmes à bord des sous-marins. Je crois que les premières ont eu le droit de monter à bord il y a 2 ans environ, dans les sous-marins de l'armée. Non, elle reste à terre. Elle, parce que de toute façon, on le sait, ça porte malheur une femme à bord d'un sous-marin en plus.
Entendu, je ne savais pas. Allez, on passe maintenant à un film américain. C'est le deuxième volet d'un film qui était plutôt réjouissant dans sa première partie. Et qu'est-ce qu'il en est de la suite? C'est Manu qui va nous en parler. Happy Birthday.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Je pense que je peux t'aider. J'ai été tué 11 fois.
Après l'éclatante réussite du premier opus de Happy Birthday, combinaison gagnante, on va dire, entre Scream et Un jour sans fin, Blumhouse, décidément en forme, remet le couvert pour une suite qui ne se contente pas d'en reprendre la formule à la manière de la franchise Destination Finale, excellente d'ailleurs au demeurant, mais au contraire s'amuse à déconstruire, reconstruire, triturer, malmener la dramaturgie de l'original en redistribuant les cartes concernant les personnages et les situations. Alors autant dire qu'il est souhaitable d'avoir encore en tête le chemin de croix de la pauvre Tri à la recherche de son assassin coincé dans une boucle temporelle.
J'ai cru que j'avais brisé le cycle, mais ça recommence. C'est pas vrai. Tout a changé. Cette fois, on est tous visés.
Si tu remets pas les compteurs à zéro, ils seront morts pour toujours, c'est ça?
Donc il va falloir que je me fasse tuer encore et encore pour tous vous sauver.
Tu pourrais trouver une solution pour remettre toi-même les compteurs à zéro.
Alors qu'est-ce qui a changé hein? Alors qu'elle pensait filer le parfait amour avec Carter, la voilà replongée dans une dimension parallèle à cause de 3 geeks, dont Ryan, petit génie expert en physique quantique, ayant déréglé l'espace temporel, précipitant notre pauvre héroïne dans un éternel retour. La voilà de nouveau forcée à revivre sempiternellement le même jour, sauf que certaines données ont changé. Alors Laurie, l'infirmière psychopathe du premier et amie de Tri, est redevenue gentille et ne compte plus parmi les suspects, mais au contraire les victimes. Dans cette dimension parallèle, sa mère qui est morte, elle est vivante. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Alors de quoi vous rendre dingue? Elle doit affronter à nouveau un serial killer avec un masque de bébé, sauf que le serial killer, en fait, ne s'en prend pas uniquement à elle, ce n'est pas elle qui est visée. Bref, c'est un peu compliqué pour ceux qui, effectivement, n'auraient pas vu le premier. Alors, toujours aux commandes, Chris Landon, alors fils, je le rappelle, de Michael, Charlie Ingalls dans La Petite Maison de la Prairie, s'amuse comme un petit fou à malmener son héroïne, interprétée par la pétulante Jessica Ross, en sur-régime. Alors, pas seulement poignardée par le boogeyman, elle se suicide à plusieurs reprises, si l'on peut dire, alors en s'électrocutant dans le bain, en se jetant du haut d'une cathédrale, en sautant en parachute, et en bikini. Alors, autant de moments jubilatoires qui font tout le prix de cette comédie horrifique emportée par un rythme frénétique. La mise en scène classique mais efficace met au diapason de l'histoire, baigne dans une esthétique alors volontairement terne, proche des teen comédies, avec ses couleurs un peu trop voyantes, ses décors aseptisés de campus universitaire et ses personnages stéréotypés. Le spectateur se trouve immergé dans un environnement connu, un imaginaire, on va dire, assimilé et détourné à bon escient, allant des films de John Hughes à American Pie, en passant par toute la vague des néo-slashers initiés par Wes Craven. Mais Landon utilise ce cas de manière ludique, sans pour autant développer un discours méta prétentieux. On est là avant tout pour s'amuser. Pendant la première heure, hein, grâce à des dialogues fort drôles et des personnages de losers attachants, Happy Birthday 2 remplit parfaitement son contrat de la meilleure comédie horrifique vue depuis le premier quasiment. Bon, et là, ce scénario victime de sa propre boucle temporelle se fourvoie parfois dans la dernière demi-heure dans une niaiserie. Tant de dramatiser des situations de façon incongrue et artificielle, la rencontre entre la mère et la fille souffre d'un manque de recul, adopte étrangement un point de vue très premier degré qui ne colle pas. Le sentimentalisme déplacé de ces moments gâche un petit peu la fête. Les twists aussi sont un peu moins surprenants et la découverte de l'identité du tueur masqué n'étonnera que les néophytes en la matière. Hein. Si vous avez vu deux slashers dans la vie, vous savez tout de suite qui est le coupable. Alors dommage, hein, cette concession afin d'étendre au maximum son audience empêche par excès de zèle et empêche le film d'atteindre le niveau d'excellence de la série Scream par exemple. Mais bon, ne boudons pas notre plaisir. C'est un excellent divertissement.
D'autant que c'est jamais facile de réaliser un deuxième volet. Et puis, en tout cas, ceux qui ne l'ont pas vu, le premier, il est disponible en VOD.
Oui. Et puis, en fait, je trouve qu'il y a un tel postulat au départ qui est excitant qu'on peut se dire qu'on peut imaginer énormément de possibilités à travers un scénario comme ça.
Alors, un père parti depuis 20 ans, qu'Alassan Diago finit par retrouver et questionne, c'est dans Rencontrer mon père, le documentaire.
Et maintenant ? Quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Le père d'Alassane Diago, pendant longtemps, ça n'a été qu'un portrait. Hein, le portrait d'un jeune homme, une photo accrochée sur un mur, car son père, le jeune réalisateur sénégalais, ne l'a pas vu pendant 20 ans. Celui-ci, comme beaucoup d'hommes de son village, Peul, où l'on vivait d'élevage et d'agriculture, ont dû fuir le Sénégal pour le Gabon et ses mines avec une promesse de travail. Sauf que le père d'Alassane Diago n'est jamais revenu et il n'a pas non plus donné signe de vie. Pourtant, il n'était pas mort. Alors dur pour un fils, dur pour un réalisateur aussi de ne pas en faire un sujet, d'autant que cette histoire embrasse deux thèmes, l'émigration et l'abandon. Alassane Diago, maintenant 30 ans, décide donc de rencontrer son père et de convier le spectateur à ce grand moment. Il emporte avec lui sa caméra. Une caméra qu'il va ostensiblement poser à côté de lui pour engager une conversation donc avec son père, évidemment, mais aussi avec sa famille. Car même si la mère du réalisateur n'y a jamais cru, l'homme a bien refait sa vie. Alors, la forme que prend ce documentaire est quelque peu déroutante, déjà parce que le réalisateur nous met en présence de son histoire et de son intimité. Il n'aura de cesse de questionner son père pour le libérer de sa mauvaise foi. Alors, bien qu'ayant vécu dans une extrême pauvreté, Alassane Diago a obtenu un diplôme de philosophie. Ainsi, il manie bien le discours et n'a aucun mal à répondre aux quelques tentatives de défense de son père, à qui nous, spectateurs, on ne pardonne pas non plus grand-chose. Hein. On attend donc désespérément ce pardon du père qui se débat entre déni et réponse faiblarde. On attend qu'il dise les yeux dans les yeux ou le regard face caméra qu'il regrette de ne pas être retourné auprès des siens, d'avoir quitté sa famille. Alors comme cette histoire se nourrit de l'intime, il y a des moments très gênants où on se sent presque de trop. Hein. Des longs moments aussi où le réalisateur, à force de placer son père devant ses contradictions, parvient à le faire vaciller. Mais à quoi bon filmer cet instant ? C'est un peu la limite de cette entreprise documentaire qui parfois s'apparente à de la cruauté, même si la fin nous autorise à penser que le fils n'est pas venu pour faire un coup d'éclat. Mais simplement comprendre comment on peut abandonner les siens et refaire sa vie comme si de rien n'était. L'avantage de ces discussions entre fils et parents, car le fiston débute son documentaire avec sa mère, qui lui donne alors 3 litres d'eau bénite hein, pour accomplir son voyage, et bien l'avantage donc de ces discussions est de laisser entrevoir de quel modèle sont faits ces parents qui croient au respect, à l'honneur, au destin, au Dieu tout-puissant, et qui se complaisent dans une forme d'aveuglement et de mauvaise foi. Alors il ne s'agit pas de juger, mais simplement de comprendre. Quand même, obsédé hein, par la nécessité de tirer des aveux de son père, Alassane Diago organise son documentaire autour de ses échanges, mais parsème aussi son film de plan fixe contemplatif d'un village désolé sur lequel s'abat un orage, d'un moment où rien ne se passe. Alors il n'y a pas beaucoup d'inventivité dans Rencontrer mon père, même un peu trop d'égarement dans la mise en scène, mais on excuse le réalisateur qui est encore un jeune cinéaste pris par un sujet intimiste qui l'a hanté toute sa vie. La fin du documentaire nous rassure quand même sur sa quête. Rencontrer mon père d'Alassane Diago est en salle depuis le 20 février. Et ce n'est pas le cas dans La Terrible Jungle, qui est aussi un documentaire, mais qui, lui, a un parti pris assez énigmatique,
assez étonnant,
entre fiction et documentaire. Donc.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Tu crois que ça leur intéresse, les gens
Un film d'amour et d'adolescent.
Ah, sûrement, ouais. Moi, ça m'intéresse. J'adore ça.
Ouais, mais ce serait bien qu'il y ait beaucoup de public dans les cinémas. Parce qu'on n'a pas fait quand même 2 ans de tournage pour rien, quoi.
Rien que ça, c'est assez étrange. Rien que ça, c'est étrange.
Oui, ils sont un peu acteurs, en fait, du projet. Voilà. Mm. Ce qui change un peu de documentaire, on va dire, un peu médico-social habituel. Alors, la première séquence hein, qui ouvre donc dans la terrible jungle, baignant dans une lumière bleutée rassurante, hein, invite le spectateur à pénétrer dans un univers clos et apaisant, une sorte de cocooning. Alors, la pièce, avec ses matelas au sol et sa musique zen, ressemble à une salle de psychomotricité expérimentale, alors nommée qui existe vraiment, hein, Snowzlen. Je ne sais pas, c'est nouveau. Alors cette entrée n'est pas innocente, elle symbolise toute l'étrangeté d'un projet insolite qui s'éloigne du documentaire socio-pédagogique. Dans la terrible jungle présente une galerie d'adolescents vivant dans un IME, institut médico-éducatif, atteint de troubles associés mais ayant comme point commun la déficience visuelle. Cet environnement, un véritable bulle leur permettant de s'épanouir, est le lieu presque idyllique où ces jeunes apprennent des gestes du travail avec un éducateur technique, répètent des morceaux de musique, discutent ensemble avec les travailleurs sociaux de la vie en communauté, se détendent à la piscine, suivent une scolarité adaptée. Alors cette organisation se construit à leur rythme, selon leurs capacités, loin du système compétitif et coercitif qui exclut la différence. Alors Omblin Ley et Caroline Capel sont issus des arts décoratifs et non du documentaire. Leur approche n'a rien de didactique, mais décalée et ludique. Quand elles ont commencé le tournage de leur premier long métrage, elles ne savaient pas très bien, voire pas du tout, ce qu'elles allaient faire, débarquant avec des intérêts divergents mais complémentaires. Omblin Ley avait un désir de filmer des lieux, des espaces un peu autarciques, alors que Caroline Lapelle souhaitait donner la parole aux adolescents. Après, rien n'était défini, d'où la grande surprise de ce film poétique et drôle qui invite la fiction à contaminer la forme étriquée du documentaire. Alors cette part fictionnelle est due à ces jeunes, tous formidables, qui ne sont pas dupes, qui savent qu'ils sont observés sans fausse pudeur. Mieux, ils scénarisent les situations dans leur intimité ou en collectivité. Les réalisatrices ne trichent pas, ne les mettent pas dans des situations, on va dire, pseudo-réalistes prises sur le vif, alors qu'on sait très bien qu'elles sont répétées. Les deux cinéastes ne filment pas des silhouettes interchangeables, mais des jeunes qui existent à l'écran. Ils sont acteurs de la réussite de ce faux documentaire. Léa chante des morceaux pop arrangés par les éducateurs et les ados. Ophélie s'empare des objets pour créer une musicalité. L'étonnant Médéric débite un flot de paroles souvent hilarant en traversant l'IME sur son fauteuil roulant. Alors Alexis, avec sa voix fluette, apparaît déguisé dans un costume combinant Batman et Superman. Cette petite tranche de vie au cœur de l'institution alors révèle des trésors cachés, se réinvente constamment sous nos yeux. La poésie s'invite, parfois brutalement stoppée par des accès de violence tragicomiques, à l'instar de cette séquence choc où le jeune Gaël se jette au sol, se fracasse contre les arbres avec une détermination stupéfiante. Alors la technicité des apprentissages, elle apparaît en creux, reléguée au second plan. Une séquence montre bien un élève lisant le braille, mais la rééducation, nécessaire et obligatoire, se retrouve dépassée par le désir de créer, d'inventer, à travers l'art, même le plus rudimentaire, chanter, danser, bouger, s'exprimer. Se dessine alors un projet presque théâtral, visant à favoriser l'expression du corps et de la voix. Alors, dans la terrible jungle, s'éloigne de la succession de scénettes aussi d'observations grâce à la précision de la mise en scène. Entièrement composée de longs plans fixes, savamment cadrés, cette œuvre étonnante laisse les adolescents respirer, les situations se développer. Le spectateur ne rit jamais contre ces individus, parce que le film est très drôle, atteint d'un handicap, mais toujours avec. Une complicité s'installe, comme dans un happening permanent, lorsque Léa analyse ses propres limites scolaires, consciente que ses rêves ne seront pas faciles à atteindre. Dans la terrible jungle, serre aussi la gorge avec une pudeur et un regard qui laisse à bonne distance l'émotion. Alors cette proposition singulière quand même n'est pas sans évoquer un autre grand documentaire, moi j'y pensais tout le temps, c'est Le Pays des Sourds de Nicolas Philibert, qui doit dater d'une bonne vingtaine d'années, je crois, 93 il me semble, avec qui il partage cette même humanité discrète et cette douce folie proche du burlesque, parvenant à faire oublier le ou les handicaps de cette communauté de garçons et de filles qui sont tous formidables.
Alors, non seulement toi, tu as aimé, mais la critique est vraiment unanime sur ce
film. Oui, mais là, pour le coup, c'est vraiment, ça fait du bien de voir un documentaire comme ça.
Après, j'espère qu'on n'aura pas fait de ça pour rien, la bande-annonce. Quand même, travailler 2 jours de tournage, c'est fatigant.
Dans la terrible jungle sera peut-être dans la course au César 2020, mais pour l'instant, on va parler des Césars 2019 et on va jouer un blind test.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Alors, Le Grand Bain et Jusqu'à la Garde sont nommés 10 fois. En Liberté sont nommés 9 fois. Et Pierre Salvadori n'a jamais eu de prix, donc peut-être que ce sera l'occasion. Et en tout cas, il y a un grand absent hein, de ces Césars 2019, c'est Mektoub My Love, Canto Uno, de Abdelatif Kechiche, qui est nommé bon, une fois, mais qui a reçu un prix de la critique, enfin voilà, qui a été très apprécié, mais qui n'a reçu donc qu'une nomination, c'est pour le meilleur espoir féminin. En tout cas, on va jouer donc un blind test, on va plutôt parler des Césars qui ont été remis alors, à foison, c'est-à-dire des Césars, enfin des films qui ont obtenu plus de 7 Césars. Voilà. Donc c'est l'occasion de revenir dans l'histoire de cette cérémonie. Premier extrait.
Écoutez-moi, je ne souhaite qu'une chose, être auprès de vous, vous sortir de cet endroit. Je suis certaine qu'ensemble nous pouvons recommencer.
Non. Nous ne recommencerons rien parce qu'il n'y a rien à recommencer. Il n'y a jamais rien eu de réel entre nous. J'ai joué avec l'idée de vous aimer, mais je ne vous aimais pas. Est-ce que vous me comprenez? C'est toujours resté abstrait. Oh, bien sûr, vous aviez des excuses d'y croire, puisque j'y croyais moi-même.
Mais moi, je n'ai jamais cessé de penser à vous. Pas une seule journée.
Moi aussi. J'ai pensé à vous, mais de moins en moins souvent. Et maintenant, je ne comprends pas du tout ce que vous faites ici.
Alors, ils n'ont été réunis que quelques fois à l'écran. C'était Gérard Depardieu et Catherine Deneuve.
Et c'était pas évident de reconnaître la voix de Depardieu.
Ah bon,
ben non, j'ai pas reconnu tout de suite. C'est Le Dernier Métro de Truffaut,
oui.
80.
81, et c'est 10 Césars, hein, dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur et meilleure actrice. Voilà, donc là, c'est le bon combo, hein, quand même, pour un César. Il y a aussi 10 Césars pour ce film.
Quelqu'un m'a mis la mort dans l'âme en me disant que tous vous êtes tous gascons de votre compagnie.
Et que nous provoquons tous les blancs-becs qui sont là par faveur.
Oui, j'ai très peur pour lui.
Non, sans raison.
Mais j'ai songé en vous voyant hier tenant tête à ces brutes. Vous, invincible et grand tel que toujours vous fûtes. J'ai songé, s'il voulait, lui, que tous ils craindront.
C'est bien. Je défendrai votre petit baron.
Oh, n'est-ce pas que vous allez me le défendre? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre.
Oui, oui.
Vous serez son ami?
Je le serai.
Et jamais il n'aura de duel?
C'est juré.
Oh, je vous aime bien. Il faut que je m'en aille.
Alors, un des ingrédients pour avoir 10 Césars, c'est d'avoir un acteur comme Depardieu. C'est trouvé, Marine.
Oui, c'était Cyrano.
Oui. Donc, 10 Césars en 91, meilleur film, meilleur réalisateur pour Jean-Paul Rapneau, meilleur acteur pour Gérard Depardieu, donc 10 ans après. Et puis, meilleur second rôle masculin pour Jacques Weber. Maintenant, on passe à 9 Césars.
Je vois à quoi vous servez ici, ce que vous faites, et je respecte ça. Mais le pouvoir, c'est pas vous qui l'avez. Les Corses, ils sont ça et ils tiennent la tôle, parce qu'ils ont des matons. Vous, vous priez dans des porcheries, vous dormez dans des cellules de merde. À chaque fois que vous levez la tête, on vous tape dessus. Peut-être que si l'imam Moussabi savait ça, il saurait quoi en faire de l'argent sale. Tu cherches quoi, toi? La même chose que toi, Hassan. Améliorer ma vie et celle de mes potes.
Tu prends pour un con, là, ou quoi? Ce que tu veux, c'est te servir de nous, c'est tout.
Et alors? Et alors, si c'est bon pour toi et moi?
Alors, ça a été trouvé, évidemment.
Un prophète de Audiard.
Oui, donc c'était en 2010, 9 Césars, donc meilleur film, meilleur réalisateur. Et puis Marine...
Oui, c'est la seule fois, il me semble, dans l'histoire des Césars qu'un acteur a à la fois reçu le César du meilleur espoir et du meilleur acteur. Et il me semble que suite à ça, justement, il a été décrété que ça n'était plus possible. Voilà, on ne peut pas concourir dans les deux catégories en même temps.
C'est pas plus mal. Et donc, meilleur acteur dans un second rôle, c'était Nils Arrest Trupp qui l'avait remporté. Allez, on descend un peu. 7 Césars maintenant.
Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28. Je te l'ai dit, non?
Ah bon? Mais une thèse sur quoi?
Sur rien.
Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps, ça.
Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans.
Ah non, Odile, c'est pas du tout ça.
C'est pas du tout ça? Bon, bah alors vas-y, c'est quoi?
Les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru.
Bah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça?
Non.
Au lac de?
Paladru!
Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, ce...
Non, personne.
Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, alors?
Pour faire parler les cons.
Pas comme lui.
Tu sais, moi, je te demandais ça, c'est plus une formalité qu'autre chose. Hein.
C'est bien ce que j'avais compris.
Et puis, à part ça, il faut être un peu indulgent avec les cons.
Je fais ce que je peux.
Voilà, une bonne joute verbale.
Donc, on connaît la chanson d'Alain René.
Oui. Donc c'était en 98, meilleur film, meilleur scénario. Donc c'était Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri hein, qui avaient écrit le scénario. Meilleur acteur, c'était André Dussollier qui l'a remporté. Meilleur second rôle masculin, Jean-Pierre Bacri. Et meilleur second rôle féminin, on l'entend ici, Agnès Jaoui. Voilà. Allez, encore 7 Césars.
Vous ne m'avez jamais dit qu'est-ce qui vous a donné envie de peindre ? C'est quelqu'un de votre famille ?
Il n'y a personne, monsieur.
Un professeur, vous avez pris des cours ?
Non, monsieur.
Mais il y a bien eu un événement dans votre vie, quelque chose. C'est curieux, cette matière. Ce rouge, par exemple. C'est quoi ?
Monsieur, j'ai mes petits secrets. Je les garde pour moi, sinon ce ne sont plus des secrets.
En tout cas, c'est fort. Très fort.
J'y vois bien des défauts.
Alors, ça a été trouvé, Marine.
C'était Séraphine.
Oui, Séraphine. Donc, grand gagnant des Césars 2009. Meilleur film, meilleure actrice pour Yolande Moreau. Meilleur scénario original pour Martin Provost, le réalisateur. Voilà, bah, c'était la surprise de cette année-là. On termine cette émission avec une actrice qui, pour la deuxième fois, se met derrière la caméra.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Oui, on poursuit donc avec Euphoria de Valeria Golino. Ettore et Matteo sont deux frères que tout oppose. Matteo a fait fortune et crame sa vie par les deux bouts sans penser au lendemain. Ettore vit une vie modeste et discrète. Les deux hommes se respectent, même s'ils ont un peu de mal à se comprendre et s'agacent parfois mutuellement. Lorsque Matteo apprend qu'Ettore a une tumeur au cerveau incurable, il décide de lui cacher et de faire emménager son frère chez lui.
Tu non ti devi preoccupare delle cose mie. Mi ospiti qua, grazie. Passa così.
Parla ancora di te. Dice che ha sbagliato. Che ti ama ancora.
Ma mi stai chiedendo di rivederlo?
Alors, comme vous l'avez peut-être un petit peu entendu, Euphoria est un film italien, donc réalisé par Valeria Golino. On n'a pas énormément de films italiens qui sortent en France, ou sinon sous forme de remake français, hein, comme récemment Le Jeu. Dernièrement, j'ai vu Une famille italienne de Gabriele Muccino, grand succès au box-office italien. J'ai trouvé ça absolument insupportable. J'avais l'impression que les comédiens gigotaient dans tous les sens, qu'ils parlaient en bougeant des mains constamment. Et je me suis dit, est-ce que vraiment c'est cela les films italiens ? Est-ce que ce sera massé de clichés et de surjeux ? Heureusement, entre Gabriele Muccino et Nanni Moretti, qui lui est quand même pas hyper rock'n'roll, il y a Valeria Golino, qui en plus d'être une actrice sublime est une cinéaste sur laquelle on se doit de compter dorénavant. Son premier film, Miele, abordait la délicate question de l'euthanasie. Euphoria parle à nouveau de famille, de souffrance, de non-dit et de maladie, mais sans austérité ni fausse pudeur. Dans ce film, elle offre le premier rôle à celui qui fut son compagnon pendant 10 ans, Riccardo Scarmaccio. Bon, alors certes, c'est quand même le rôle d'un homme sentimentalement très immature, passablement porté sur l'autodestruction et sur la drogue, mais c'est quand même un très beau rôle. Le film réussit particulièrement ses va-et-vient entre semi-drame et quasi-comédie, bien qu'il lui manque tout de même un petit quelque chose hein, qui le rende vraiment inoubliable, vraiment marquant. J'ai remarqué que souvent les films vus sur les festivals étaient reçus de façon un peu exaltée, bien plus que si on les voyait sur un écran chez soi ou sur Netflix. Eh bien, pourtant, j'ai vu Euphoria cette année à Cannes, en sélection Un certain regard. J'ai l'impression que je dis ça toutes les semaines. Et même à Cannes, eh ben, il ne m'a pas plus ému que ça. C'est dire quand même s'il manque un peu de substance, de rythme aussi. Euphoria, d'ailleurs, est repartie bredouille autant au niveau du palmarès que dans mon cœur. Franchement, allez plutôt voir Le Chant du Loup. Mmh.
Ce sera la conclusion de cette émission.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui. Oh,
c'est pas possible.
Si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp !
La semaine prochaine, nous entendrons deux réalisateurs. Il y aura Mohamed Hamidi pour Jusqu'ici tout va bien, et puis Yazhen Ke, le réalisateur chinois pour Les Éternels. Et puis on aura l'occasion de jouer un blind test spécial banlieue.